Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Les fleurs du mal, de Charles Baudelaire. Les fleurs du mal est un recueil de poèmes de Charles Baudelaire, reprenant la quasi-totalité de sa production en vers de 1840 jusqu'à sa mort, survenue fin août 1867. Publié le 21 juin 1857, le recueil scandalise aussitôt la société française. Son auteur subit un procès retentissant. Le jugement le condamne à une forte amende, réduite sur intervention de l'impératrice. De 1861 à 1868, l'ouvrage est réédité dans trois versions successives, enrichi de nouveaux poèmes. Les pièces, jugées immorales et interdites en France, paraissent en Belgique. La réhabilitation n'interviendra que près d'un siècle plus tard, en mai 1949. Le recueil est considéré comme une œuvre majeure de la poésie moderne. Il diffère d'un recueil classique où souvent le seul hasard réunit des poèmes généralement disparates. Ici, les poèmes s'articulent avec méthode et selon un dessin précis. Les principaux thèmes sont la souffrance d'ici-bas considérée selon le dogme chrétien du péché originel qui implique l'expiation, le dégoût du mal et souvent de soi-même, l'obsession de la mort, l'aspiration à un monde idéal. La poésie de Baudelaire exercera une influence considérable sur des poètes aux publications ultérieures tels que Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé ou encore Louis Aragon. Charles Baudelaire est né le 9 avril 1821 à Paris. Son père est alors sexagénaire. Quand il meurt en 1827, Charles n'a que 5 ans. Un an après la mort de son père, sa mère se remarie avec le chef de bataillon Jacques Aupic. C'est à l'adolescence que le futur poète s'opposera à ce beau-père interposé entre sa mère et lui. Baudelaire mène une vie en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Jugeant la vie de l'adolescent scandaleuse, et désirant l'assagir, son beau-père le fait embarquer pour Calcutta. Le paquebot des mers du Sud quitte Bordeaux en juin 1841. Mais en septembre, une violente tempête oblige le capitaine à faire escale à Port-Louis, dans l'île Maurice. De retour à Paris, Baudelaire s'éprend de Jeanne Duval, une jeune fille de Saint-Domingue qui avait joué 2 ou 3 fois au théâtre du Panthéon et avec laquelle il connaît les charmes et les amertumes de la passion. Cette liaison devait durer près de 20 ans, malgré les trahisons et les mensonges de cette femme qui, pour certains, ne fut jamais attachée au poète que par intérêt et que Baudelaire devait aimer jusqu'à sa fin au dépôt de mendicité de Saint-Denis. Il mène une vie dissolue dès 1842. Baudelaire découvre aussi le haschich, l'éther, l'opium, ces paradis artificiels évoqués dans son œuvre. En dandy, il a des goûts de luxe. En 2 ans et demi, il a dépensé la moitié de l'héritage et a tant de dettes que sa famille effrayée lui impose un conseil judiciaire. Cette situation infantilisante inflige à Baudelaire une telle humiliation qu'il tente de se suicider d'un coup de couteau dans la poitrine le 30 juin 1845. Il commence alors à composer plusieurs poèmes des fleurs du mal. Critique d'art et journaliste, il défend Delacroix comme représentant du romantisme en peinture, mais aussi Balzac. En 1848, il participe aux barricades, la révolution de février instituant la liberté de la presse. Moins de 2 mois après leur parution, les fleurs du mal sont poursuivies en justice pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Seul ce dernier chef d'inculpation sera retenu. Baudelaire est condamné à une forte amende de 300 francs, réduite à 50 francs par suite d'une intervention celle de l'impératrice Eugénie. Victor Hugo, à qui Baudelaire a fait parvenir son recueil, lui envoie de son exil à Guernesey une lettre d'encouragement. Il dit « Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles ». Malgré cela, les dettes de Baudelaire s'accumulent, d'où son voyage à Bruxelles en 1864 pour une série de conférences. Mais c'est un échec, dont il se vengera dans des textes violemment critiques contre la Belgique et ses habitants. Rongé par la syphilis, affecté désormais par une forme sévère d'aphasie globale, privé de l'usage de la parole, devenu incapable de lire ou d'écrire, Baudelaire ne dispose plus que d'un langage résiduel. Il meurt le 31 août 1867. Le matin, Narcisse Ancel, son conseiller judiciaire, et Charles Asselineau, son ami fidèle, déclarent le décès à la mairie du 16e arrondissement et signent l'acte d'état civil. Le même jour, il est inhumé au cimetière de Montparnasse, dans la tombe où repose son beau-père détesté, le général Aupic, et où sa mère le rejoint 4 ans plus tard. L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique, ailé. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Les petites vieilles, dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, éponymes ou laids, monstres brisés, bossus ou tordus et mollets, ce sont encore des âmes, sous des jupons troués et sous de froids tissus. Ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus et serrant sur l'enflant, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent, tous pareils à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés, ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes, où se pend un démon sans pitié, tout cassé. Qu'ils sont ? Ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisant comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que mains cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui de l'enfant ? La mort savante met dans ses bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche, à l'aspect de ses membres discords, combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits faits d'un million de larmes, des creusets qu'un métal refroidi pailleta. Ses yeux mystérieux ont d'invincibles charmes pour celui que l'austère infortune allaita. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.